Bonjour, merci de votre présence. Merci au professeur Hoover de l'Université du Colorado d'être ici avec nous et d'avoir pu surmonter les difficultés liées aux événements récents pour nous rejoindre. Alors, sa communication était prévue pour la session d'hier, mais je crois qu'elle s'intègre tout à fait dans le propos d'aujourd'hui. Si j'ai bien suivi le cheminement méthodologique de ce colloque, après avoir étudié les problèmes de contenu et de représentation, nous allons passer à partir de ce matin davantage dans le champ de la réception de ce qui concerne l'information sur le fait religieux dans les médias, mais nous allons le faire de façon un peu originale, différente, en introduisant dans la dichotomie classique entre émetteur et récepteur un tiers, ce tiers étant l'expert universitaire, et donc c'est cette forme de triangulation qui sera abordée par l'ensemble des communicants de ce matin. Et en ce sens, la communication du professeur Hoover n'est pas du tout décalée. Il va nous informer des études qu'il a menées sur la manière dont les nouveaux médias modifient dans la société l'autorité des religions instituées. Donc, monsieur le professeur, vous avez la parole pour 30 minutes.
Thank you very much. It's a pleasure being here with you. My apologies for my delay in arriving, and it was out of my control. And apologies that I don't have French. I wish I could lecture you in French, but I will read my address. I've sent a text, and those of you who would like to have it or to follow along may do so. I also have some photographs. I want to show some images that I will pause and try to describe as I proceed. The point that I want to make this morning has to do with the persistence of religion in modernity. Religion persists in the 21st century. This is less surprising today than it probably was a decade or more ago, when most intellectual and social elites still believed in the tenets of secularization. Religion was supposed to have faded away, particularly in the North Atlantic West, where increasing levels of social, educational, and economic development were to have made religion less attractive and less necessary. The world was to have become disenchanted as technical and scientific knowledge became more and more commonplace through the circulation of knowledge and information. The withdrawal of religion was even thought to be likely in the most religious of the Western nations, with my own country, the United States, as a central example of this. Religion might persist, it was thought, but it would do so only as it became more private and less public. But, as we all know, religion did not go away, and there are important signals to that effect, even far back into the last century. In my own country, the rise of religious politics in the 1970s and 1980s signaled a role for conservative religion, and at the same moment, the Islamic Revolution in Iran signaled that Islam could no longer be thought of in modernity as a thing of the past. Each of these threads has only grown in significance in the years since. The events of 9/11, the Bali, London, Madrid, Paris, and now Brussels attacks have built a shock upon tragedy. And in my own country, in our current political season in the United States, we've seen marking of new forms of religious activism. There are also echoes of religious pasts in current political and economic turmoil across Europe. No, religion has not left us, it remains, but it remains in new forms. Secularization has not meant that we face a modernity without religion, but rather we have modernity with religion, in an ever-expanding array of forms and of meanings. And the point I want to make this morning is that this persistence of religion is so much rooted in its mediation, even in its popular mediation. And the image that I have behind me here is an example of that from over 60 years ago. The persistence of religion poses a challenge to scholarship. the intellectual traditions that have defined the fields closest to these trends, the trends of the persistence of religion, those fields have struggled to account for the changes and the trends. In particular, scholarship on contemporary religion has failed to fully understand the role of contemporary media in the making and the remaking of religion. All religions, of course, have always been mediated. All have always depended on media such as poetry, dance, painting, storytelling. These traditional media have been amplified through history as new forms and channels of mediation and communication have emerged. The problem for scholarship is that communication or mediation has been seen instrumentally only, with various forms of mediation merely transmitting knowledge or value rather than contributing something to the process. So mediation within religion has not been a focus of analysis or criticism. In this traditional view, media do exist and do play a role, but only as the media, meaning the commercial, the secular, the modern, the public, the journalistic media. By this formulation, the important questions have been only how do religions use modern media and how do the media frame or treat religion? In the former, the narratives have been about the encounter of religion with modernity, and particularly, in particular, with modernity's lived environment, the media. In the latter, the narratives have been about the way that secular, rational, and culturally situated media and national media frames have positioned religions and the category of the religious. The important public and academic discourses have focused on the effects of one of these spheres upon the other, the effects of religion on the media or the effects of the media on religion. But now there is coming important change. New research on media and religion is beginning to focus more carefully on the interactive spaces where media and religion intersect in contemporary life. This scholarship has looked at both the mediation of religion and at religious uses of the media, and is coming to understand that the traditional separate spheres assumptions are too narrow and too limited. To start with, new forms of mediation have certainly changed the way religions are understood by their followers and the way authorities within those religions exercise their power. Such differences were obvious with the transition from print to visual culture during the 20th century and are even more obvious in the digital age. New forms of mediation have also changed the capacities of the media to cover religion and to frame religion. It is no longer the sole responsibility of journalists working for major media outlets. Today, diversified sources of information from within and outside religious spheres circulate in more and more accessible ways and locations. They're in our hands. They're in our devices. Thus, it is clearly not adequate to simply say that religion and media are autonomous social structures or cultural spaces that stare at each other from afar, interacting only pragmatically. Only when religion wants to use media or only when the media want to cover or frame religion. Media are obviously involved in the way religions evolve in modernity. And religion is clearly involved in setting the extents and the limits of what media can produce. But the relationship is actually deeper than that. Today, we have to see that religion and media have come together in fundamental and vital ways. There are religions that are clearly so mediatic that they could not have existed in a less media-saturated time. And there are media that are so involved and so invested in religious or spiritual work that it no longer makes sense to think of them as fully secular. For example, the global spread of Pentecostalism, the example I have on the screen here, the largest church in the world, the Yoido Full Gospel Church in Seoul, Korea. This church, as you can see, is mediatic in that it broadcasts its services. But it also has media within the services themselves. You can see the large video screen on the wall. This Pentecostal movement cannot be understood outside of its mediation, its embodiment in capitalist cultural markets, and its aggressive mediatic commodification of itself. In Islam, there are both forces of moderation, such as the so-called televangelists, Amr Khalid and Sami Youssef, that you see here on the screen. And there are forces of Salafist Islamism, including even the Islamic State, that are clearly mediatic, both materially and symbolically. There are myriad examples of the so-called secular media becoming religion in important ways. Banal examples include phenomena such as Mel Gibson's controversial film, The Passion of the Christ, in my home country. The current film, and by the way, The Passion of the Christ is doubly commodified. It was both a film, but it also sponsored a sports car in the NASCAR circuit. That's the car that it sponsored. The current film, Miracles from Heaven, just being released in the U.S., and the phenomenon of the commodified passion, pop music spectacles that originated in the Netherlands and then the U.K. and just arrived in the United States this past week. Less banal and probably more important examples include the many, many, many digital and social media websites, groups, meetups, and fan activist sites that are moving to the center of religious and spiritual exploration for the so-called millennial generation. A few examples I'll show you here. This is the social media movement commemorating the Iranian martyr Neda Aga Sultan, the young woman who was killed during the riots protesting the elections in 2009. She's floated through, she's had a trajectory through the social media landscape that's really quite remarkable and continues today as an almost mediatic martyr, mediatic symbol, remediated and transmitted across the Iranian diaspora throughout the world. These are examples from her website. My colleagues and I have looked very closely at the phenomenon of post-secret. Some of you may know it. Here's the French version of post-secret. There's a national post-secret franchise in nearly every major Western nation, an online confessional through which members of its audiences, of its circulations, commemorate loss and commemorate and lament losses in their lives. This is a card from the French post-secret from yesterday. So the mediated, and of course the anonymous movement, which many of you may know about, which recently announced attacks on Donald Trump, one of our candidates in the Republican nomination process that's underway. So the mediated religious facts today exist well beyond the limits of what national and global public media and journalism cover and how they cover it. The fact is that the media and practices of mediation are remaking the facts of religion on the ground, even as media attempt to generate and circulate knowledge about religion. Both happen in the same spaces and within the same circulations. There are two particularly profound areas of implication of this situation. One, the role of the so-called digital revolution, which I've referred to already, and the prospects of all this for authority in religion. And I want to talk about each of these just for a few minutes. First, the role of the digital revolution. This has extended and deepened the fundamental structural conditions of media and modernity, conditions that emerged in the mass media era, but have deepened in profound ways since. At least three of these conditions have drawn particular attention and are deserving, I think, of analysis and interpretation: speed, ubiquity, and autonomy. First, speed. As scholars such as Paul Virilio have pointed out, life today seems to move faster than in the past and seems to be accelerating even as we experience it. The construction and circulation of symbols and narratives seems today to move ahead without pause. There's no time for reflection. Layers and circulations form on top of one another. Circulations and remediations pile on top of each other. This is partly a technological phenomenon, of course, but there are other causes, there are other reasons for it, as Virilio points out. So in the digital revolution, we have this phenomenon of speed. And it further cannot be avoided. There's also the problem of ubiquity. Along with speed has come the reality of the ubiquity of media. Media are everywhere and define everything in unprecedented ways. The so-called social media revolution is a revolution of access and circulation that's rooted in this ubiquity. Again, they're all around us all the time, everywhere. I cannot express to you my anxiety last night. Mia Liefheim will tell you this, in realizing I'd left this charging in my hotel room when I went out to dinner, and I felt for it, and I thought all the way back to my room, is it there, or did I drop it at the restaurant? And I was thinking on my last visit to Paris, which was before I had one of these things, it never would have occurred to me to worry about something like this. There would have been a telephone I could use, or how did we live before we had these? So that's the ubiquity problem. The so-called social media revolution is a revolution of access and circulation rooted in its ubiquitous presence in our lives. Ubiquity also explains the repeated moral panics that form around bourgeois anxieties about the effects of the media age. This has led to a condition that my colleagues and I call the hypermediation of religion, the hypermediation of religion. And this depends on these conditions of speed, ubiquity, and the third condition, an ascribed and contested aspiration to social autonomy. This hypermediation carries with it its own view of human subjectivity. In the hypermediatic age, we are encouraged to value autonomy and to think of ourselves as autonomous actors. This is inscribed in the emergent folkways of the digital age. Social media absolutely depend on this. This idea, this ascribed autonomy, is also at the root of what the neoliberal marketplace tells us our normative subjectivity should be. It is confirmed in our own field research at our center when we talk with media audiences about how they prefer to think of media. While the fundamental modern subjectivity in relation to media is a feeling of complex and profound ambivalence, as represented by this image that I have on the screen. This ambivalence is resolved to the extent that they, members of the audience, can perform autonomy, however limited or facetious that autonomy may be. To the extent that they can perform it, that is their way of dealing with the onrushing effects of this hypermediatic experience. This all has profound implications for the second of the fundamental implications that I want to talk about in terms of the contemporary situation. That is what it means for religious authority. Authority has been under pressure since the dawn of the modern media age in the print revolution of the 15th century. Once an autonomous media sphere emerged that could be supported through the commodity cultural marketplace and could be supported thus outside the patronage of the church and of the state, religious authorities of various kinds could lose control, could lose their monopoly power over the production and circulation of symbols. Authorities lose their power to monopolize construction and circulation of symbols. In the end, they have even lost control over their own symbols. And we have rather ancient examples of this. This is Madonna many, many years ago. And each of these pictures of Madonna from earlier in her career, there's a cross. You can see them in each of the positions. And you can imagine the Catholic authority would not approve of that use of the cross. That's not the sort of deployment of the cross they would necessarily want to have. So they can't control that. Or Sinead O'Connor, this is the Irish singer Sinead O'Connor, who on a major popular television program in the United States about 20 years ago tore up a picture of Pope John Paul II, said, fight the real enemy, and tore up John Paul II. All right, so this happens in a media frame totally out of the control of authorities. They've also lost the ability to create defensible boundaries between secular and sacred realms, between inside conversations and outside conversations. They can no longer have a private sacred sphere of action. Now, the Catholic Church, of course, has experienced this in its experience with the global sex abuse scandals that are raging across the world. In spite of what it might want to do, it faces a cultural media marketplace that can produce things like this film, which won the Academy Award in the United States this year, the film Spotlight, which was about the sex abuse scandals. And the church can't control this other sphere of cultural production, the media. The modern Muslim, I would say that Islam experiences this through the global circulation of media that rise outside the boundaries of traditional Islamic scholarship and learning as well. Oh, I put in an extra image. This is one of my favorite images of the framing of the Catholic Church. Papa Francisco riding in the back of a Volkswagen Love Bus. And this is a very interesting image because it directly confronts Pope Benedict's critique of the media, the role of the media in liberalizing the Catholic Church. You may recall that just at the time of his resignation 3 years ago, Benedict gave an address to the clergy of Rome where he articulated a critique of the role of journalism in the Second Vatican Council. His argument was the Second Vatican Council back in the 1960s, which is seen as a major moment of liberalization of the Catholic Church. Benedict argued that was an effect of the media. The media made it look liberal. It was their creation, and he was lamenting the ability of the media to create that kind of liberal image of Catholicism. So he would be horrified by this particular image in a newspaper. All right, I was going to go on to Islam then and say Islam experiences the same thing, or a parallel sort of set of effects through the global circulation of media that arise outside the boundaries of traditional scholarship and learning. And the examples, again, of Khalid, of Sami Youssef, and even the Islamic State, they don't have a whole lot in common, these different movements, but they do share in common the fact that they circulate images in a public marketplace that's out of the control of religious authority. These implications for authority are obviously related to, even based in, the issue of subjective autonomy I discussed earlier. The relationship is not direct. I am not arguing that the media have led to the rise of individual personal autonomy in relation to authority. The connection is obvious in that in the contemporary North Atlantic West, there is a growing distrust of settled authority. This can be seen in the circus that is the current presidential election in my own country. It can also be seen in the emergence of once fringe ethno-nationalist political movements across Europe. Simply put, people today feel newly emboldened to question what once had been unquestioned. The media are clearly involved in this. As the British sociologist Anthony Giddens has argued, the personal autonomy and the quest for the self in modernity is rooted in experiences in media, where we are encouraged to think we have a greater mastery over the facts of the contemporary situation than we had in the past. And as we all know, the whole mode of practice of the digital age is inflected with the market's rhetorical claims that these digital and user-generated media are all about our social and cultural autonomy and efficacy. What does all of this mean for scholars who wish to understand contemporary relations between religion and media? As I'm speaking to a graduate student conference, I thought I should turn to that question. The conceptual argument flows from what I have said already. We can no longer assume that it is a simple fact of media, instrumentally documenting or conveying or materially enchanting the experience of religion. Instead, media today are generating entirely new forms and contexts for the circulation and reception of religious facts and religious knowledge. Among those religious facts are those that are rooted in religious mediations. The situation demands some conceptual and methodological sophistication and points in two directions: toward a renewed historicism and toward a continued emphasis on qualitative, interpretive, and ethno-methodological approaches to empiricism. Our received ways of studying media and religion were rooted in our received ideas about relations between the two. It was all about the effects of one upon the other. If it was all about the effects of one upon the other, then it might make sense to apply the more traditional and culturally brittle methods of positivist empiricism. But since these relations are more nuanced and are more layered, as I've been arguing, other approaches are necessary. In fact, much of what I have said about emerging theory in media and religion has been possible only because scholars have begun to apply these more complex and layered methods, open to subtle and nuanced relations and effects. The focus has shifted from what are the effects of the media to what is produced by mediated religion. Trends in the field of religious studies away from essentialist categories to questions of practice and materiality have likewise opened up new avenues to us. My colleagues and I have learned a great deal from the field work we've done. As a prominent example, our work on the third spaces of digital religion emerged directly out of such an interpretive practice. Historicism is also increasingly important. We can learn a great deal by applying a historicist lens to these relations. Where and how did mediatic religion emerge? What are its sources? What cultural work did it, or did discourses about it, attempt to do? What were the public moral crises and even moral panics that produced the way we think about and talk about religion and about the mediation of religion? Let me mention two specific historicist projects that I'm working on myself as a way of trying to illustrate this. First, I have become interested in exploring how our understandings of religion in the West are, in fact, a legacy of the age of exploration and colonialism. I do not mean this in the commonplace way we were all taught in school. Instead, I intend a rethinking that provincializes the North Atlantic West, with apologies to Chakrabarty, of course, and sees our cultural experience in this area as a project of world-making that depended as well on the emergence of systems of meaning-making and circulation, specifically the media of modernity in the print era. These systems became central agents of the making and defining of worlds through their commodification of accounts of the explorations of the world that were being done by European explorers and colonialists. And religion and the definition of religion became an important part of this world-making practice. Thus, the very idea of religion as a public matter and the practices that circulate definitions of religion, of good and bad religion, and of the meaning and value of religion have both been integrated into our Western consciousness by means of mediations. Thus, the idea that media and religion are doubly articulated, by that I mean that it is both about how religions are mediated and about how our circulation of knowledge about the mediation of religion itself becomes such a mediation, this is all nothing new. We simply need to understand it better. Historicism can also help us unpack the meaning and significance of the American case. For too long, scholars of media and religion have generalized the American case and American experience as somehow normative. Important terms such as fundamentalism, televangelism, even commodification are not general, but are in fact specific to the American experience. At the same time, there are ways in which the American case has been definitive, if for no other reason than its market power in both media and religion markets. A new historicism of media and religion can help us understand and learn from this case without having to treat it as a normative case. So religion has not gone away, and it will not go away. Its mediation is an essential dimension of its persistence, and it is that mediation is deserving of scholarly attention, both in its own terms and for the purpose of unpacking its implications across other structural and social locations, including in politics. The facts of religion thus include its mediation, and it is a testament to the enduring value of academic traditions that an academic scholarship devoted to this is emerging and is growing. Finally, on that point, a commercial announcement. Those of you who are interested in the field of media and religion, there is a scholarly association, an international group called the International Society for Media, Religion, and Culture. The current president of that group, Mia Löwheim, is sitting in the room, vice president of that group and planner. The next conference is in Seoul, Korea, in August of this year. There will be another one in 2 years. And you're welcome to chat with Mia if you're interested in talking more about this opportunity. Thank you.
Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour cette communication très stimulante et pour cette invitation à poursuivre en d'autres lieux la confrontation. Si je peux me permettre deux remarques brèves, n'étant pas ni sociologue ni spécialiste des médias, mais historien, j'ai été bien sûr très sensible à votre propos sur l'historicisme et la relation entre culture, religion et moyens de communication. Depuis longtemps, moi, je rêverais d'une étude comparée sur la manière dont les changements technologiques ont affecté à la fois le contenu des foi religieuses, leur insertion dans les cultures et les évolutions qui ont suivi. Des études ont été menées sur les changements intervenus dans la religion à l'époque romaine avec l'apparition du codex et l'émergence du christianisme. Le christianisme s'étant emparé du codex comme d'un instrument privilégié de sa communication et de sa diffusion. Bien sûr, tout ce qui touche, et vous l'avez évoqué, à la réforme et à la révolution de l'imprimerie a été davantage étudié, et nous sommes aujourd'hui un peu dans une troisième phase que vous avez développée également en évoquant la question de la diffusion à travers les entreprises coloniales. Mais ce rapport technique, foi et communication de la foi dans son rapport avec la culture ambiante est évidemment une question intéressante. Et puis alors il y a une autre question qui, que je trouve intéressante, mais qui a été déjà, je crois, étudiée hier après-midi, mais je n'étais pas là hier après-midi, c'est le problème du droit. Vous avez montré cette photo de Sinéad O'Connor déchirant la photo du pape Jean-Paul II à la télévision américaine. Elle a pu faire cela aux États-Unis, mais elle a été chassée de la télévision irlandaise. Donc la relation des autorités religieuses et politiques à l'expression d'un rapport à la religion par rapport aux mœurs et à la loi est une question qui varie, me semble-t-il, de façon assez sensible d'un pays à l'autre. Pardon d'avoir abusé de la parole, je crois que nous avons 10 minutes de questions, donc...
Simplement donc pour c'est plus une remarque parce que je travaille sur plutôt dans le côté artistique et je voudrais souligner que les artistes contemporains ont aussi se sont emparés de cette question là et c'est à titre d'exemple c'était une exposition en 2009 et ce sont deux artistes italiens qui avaient ils avaient pris un confessionnal et à l'intérieur il y avait un ordinateur. Et il demandait donc aux personnes de rentrer dans ce confessionnal et d'écrire leurs péchés. Et à l'instant, instantanément, tout est envoyé sur Twitter, Facebook et compagnie. Et c'était juste, et je me retrouve vraiment dans votre discours, c'est parce que c'est-à-dire tout ce qui appartenait à la sphère privée maintenant appartient à la sphère publique. Et il montre, très schématiquement, en effet, que c'est désormais le nouveau confessionnal, ce sont les réseaux sociaux. C'est juste une remarque. Voilà, je voulais simplement parler de l'appropriation par les artistes.
Yes, and I would respond to that too, to kind of connect it with what I said about authority and resistance to authority and autonomy, because what's implied by that act of placing the confessional in a technology and in a space where it's not usually, it implies an act on the part of the artist and on the part of the adherent to a kind of autonomous interaction with and play, almost a ludic play, with the symbols and the forms and the structures and the construction of the traditional confessional. Confession is a very interesting category. There's a confession app that's very popular. The post-secret site that I talked about is a confession site. There's something about confession that is particularly meaningful as an act in contemporary life, and that's something else that we probably need to do work on.
Merci. David Douillère, professeur à Tours. Vous avez dit que des médiations étaient utilisées par les religions et parler des relations aux médias. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, avec Enzo Pace ou quelques autres, que les religions sont communication dans la délivrance d'un discours, dans la proscription, l'interdiction des images, dans des règles sur des images, dans des systèmes de mise en relation des personnes? Est-ce qu'au fond, la communication comme production de sens et système de médiation n'est pas le cœur même, en fait, de la religion? Vous l'avez dit, avec ses médiations internes et ses médiations externes. Mais est-ce que c'est autre chose que cela? Parler avec des entités absentes pour certains, les rendre présentes par la parole ou des images, échanger avec d'autres par des images et des discours, et transférer ces images, ces discours sur des réseaux sociaux, enfin sur des applications numériques. C'est globalement une extension de la communication qu'est une religion.
Yes, I agree. And that's the reason why I think authority is such a central question. Because what this new situation that you've just, it's not that new, but the new integration of new technology into the system of communication that religion has always been raises questions about the ability of authority in religion to define the places which are the appropriate places or the means of the appropriate means. It's interesting that particularly theological thought and Catholic theological thought has, for the last 40 years, said this, that has said, oh, all religion is communication. It's just nothing new that it's happening in new spaces. What they've missed is that the momentum in the circulation of religion, the momentum in the communication of religion has shifted away from its traditional context into this broader context, some call democratic. That's a problematic way to think of it, but it's a commodity circulation. It's a new inventory of symbolic possibilities that are out there through the media. They have missed that directly confronts their ability as theological elites to decide what's appropriate and what's not appropriate. So that then becomes the really interesting question. And the whole nature of religion as we understand it in modernity is probably about authority. It's not about anything else. So, yeah.
Yes, thank you for this comment. Thank you for your talk, Stuart. This question you will probably recognize since I pose it several times. But I think it's also important to not just look at the way authority is changing, crumbling, with new media, but also the way that new authorities, new authoritative patterns are arising in these new media forms. They are based very much on the ability of people to use media in their way, and sometimes they also tend to go back on old social structures like gender, class, education, language. So I think also with religion, I think an important field is to look at what are the new authority structures that might be more implicit, and we might not see them so much because they are clothed in this language of, as you rightly point out, autonomy, individual power and so on.
Yes, I agree. It is all new, but it is all old. And I think that's one of the fascinating things about the circulation and remediation of the imagery. If you look at some of the images I showed, the ISIS image, for instance, we all know it's ISIL, Daesh is a very, very effective manipulator of symbolism, and they do that by evoking very, very archaic remembered imaginaries of symbolic resources. And the same goes for invocations of things like traditional views of religious morality, traditional views of gender and gender relations. Those are all available in this mix of remaking. Another issue of authority, I think, that really needs a more investigation than I've been able to do is, as things are circulated, new authoritative practices emerge and new places, new ways that authority can articulate. One of those may well be in when in circulation a set of circulations become systematic, they become routine. Who's responsible for that routinization and that systematization? That's a new center of authority also. And so there are many layers and levels on which we need to look at this issue of authority. Yeah.
Je crois que nous pouvons prendre une dernière question.
Thank you very much for the talk, which I found extremely thought-provoking. And you argued very convincingly that we should leave behind a view in which the religion and the media are two sets of institutions in interaction, and rather take a position to look at the deep integration of media in everyday practices in a kind of a banal media use. But perhaps there is still a difference between the ubiquitous digital revolution, the mobile phone that you just showed, and a religious group that tries to address general audiences through the use of professional media. You're either in CNN, the New York Times, and the Guardian, or Spiegel, or Le Monde, or you are not. To me, this looks like a qualitative difference from the everyday level of banal media use of you know, multimedia.
Oh, certainly, yes, I agree. And I think the received world that we're moving from still is there in some ways. These are contestations as emerging systems are happening. That's the simple answer to the question. I actually think, though, that those legitimated large frames and forms will persist as well. And we have evidence of that from our field research, where it's obvious that people, in spite of the attraction of autonomous circulation and the attraction of being able to craft their own vision of the world using their media, they still are attracted to some sort of a central conversation. They still want to be part of a notional common culture, some kind of a common center. So they want to know the latest news. They want to know the latest fashion. They want to know, in our case, what Donald Trump said yesterday or someone said about him yesterday. So there still will be that status for those central frames. And I think we're seeing that in the way the marketplace is gelling out now, that we're seeing a differentiation and a layering of the journalistic marketplace, where some voices and some forces still persist as those kinds of central places. And as you say, I think quite rightly, religious interests or political interests or movements or networks aspire to be framed there. They still want to project their images into that space. That's why the kinds of political actions, terrorist actions, things like that are done. They want to be in that space still. Yes. Mm-hmm.
Bien, merci encore au professeur Hoover pour cette communication très stimulante. Les questions l'ont prouvé s'il en était besoin. Et nous écoutons la deuxième intervention de cette matinée, Camila Areas, qui nous parle de l'affaire de la burqa à travers la presse régionale.
Bonjour à tous. Premièrement, je remercie surtout les doctorantes organisatrices de l'événement. D'ailleurs, très intéressant, de très qualité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire de la burqa. Je pense qu'on va, faire, on va pouvoir établir un dialogue avec la présentation d'hier, même si l'approche est complètement différente. Donc je suis en communication, en sémiotique. Donc je vais vous apporter d'autres éléments d'analyse, mais qu'on pourra croiser avec l'intervention d'hier. Donc je vais tout d'abord un peu situer cette présentation dans les cadres de ma recherche et puis on entre en la matière. Cette communication est donc issue de mon travail de thèse, développé depuis 5 ans dans les domaines de sciences de l'information et de la communication, spécialisation en sémiotique. Et elle porte sur les mécanismes discursifs et visuels des productions médiatiques sur les faits religieux islamiques, prenant donc comme objet d'analyse l'affaire du foulard et l'affaire de la burqa. La présentation d'aujourd'hui, elle concerne précisément l'étude réalisée à propos de la médiatisation de l'affaire de la burqa à travers la presse régionale. Donc les journaux Ouest France et Presse Océan, je les ai choisis parce que ce sont les journaux de la région où a eu lieu les faits divers qui a donné origine à la loi. Donc dans cette partie, j'analyse uniquement la presse régionale pour comprendre la construction de ces faits divers, son inscription dans les cadres de la loi. Et dans un deuxième moment, j'analyse les débats autour de la loi, tel qu'un peu le même corpus que notre intervention d'hier. Mais notre présentation d'aujourd'hui donc concerne cet autre corpus, la presse régionale. Mon approche d'analyse, il s'agit notamment donc de l'analyse de l'image et surtout des discours, donc analyse énonciative, argumentative, rhétorique, pragmatique, sur l'écriture journalistique et la mise en scène médiatique du fait religieux. Ici, l'objectif de cette présentation sera de rendre intelligible, tout d'abord, dans un premier moment, cette question de la visibilité, donc comment les médias ils construisent l'invisible et les visibles, sous quelles stratégies et quelles crises on peut y pointer. Et dans un deuxième moment, plus court, vraiment à la fin, on verra donc comment cette presse régionale, elle met en scène une énonciation humoristique pour donc dénoncer l'instrumentalisation du fait divers nantais dans les cadres de l'affaire nationale. Quelques questions qui m'ont orienté au départ de cette recherche sont en considérant que les médias sont une pièce centrale dans l'expansion de la visibilité au XXe siècle, faisant de l'image l'un des enjeux majeurs de la modernité occidentale. Donc, comment pouvons-nous penser les caractères aniconiques du fait religieux islamique en rapport au flux d'images médiatiques ou alors, comment, dans la couverture régionale de l'affaire de la burqa, passons-nous d'une visibilité sociale à une visibilité médiatique du fait religieux islamique? Voilà, je vous ai un peu présenté. Pour répondre à ces questions, on va tout d'abord, dans un premier moment, essayer de comprendre l'arène médiatique comme un lieu de déploiement des stratégies de visibilité, comme un lieu de construction d'une certaine hiérarchie du voir, et donc dans les spectres du visible et de l'invisible. Et dans cette partie, on va s'intéresser notamment à deux concepts. Les couples conceptuels visibles-invisibles et les concepts d'iconocrise. Je vais vous dire pourquoi j'y vois une crise iconique dans cette affaire. Donc ici, il s'agira de voir comment l'affaire de la burqa, elle soulève des questionnements autour des régimes des visibilités français, voire occidentaux. Et dans un deuxième moment, il s'agira donc de traiter plus discursivement cette couverture. Donc c'est du discours de l'humour, de la dérision qui sert à cette presse régionale à dénoncer la couverture nationale de l'affaire et la manière dont les politiciens ils les construisent aussi. Passons à la mise en scène de l'affaire de la burqa, stratégie de visibilité et crise iconique. Dans la construction, donc je vais tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers à l'affaire, au déroulement des affaires, donc je vais tout simplement vous dire comment cette affaire, ce fait divers là, comment il a émergé, comment il est né. Donc nous sommes le 2 avril 2010 à Nantes, ouest de la France. Un motard, dans l'exercice de sa fonction, surveille la route. Une conductrice voilée intégralement à bord d'une Mercedes noire aux vitres fumées s'est fait arrêter par les premiers, par les motards. Donc la rencontre de ces deux anonymes, un représentant de l'ordre public de l'État et l'autre une citoyenne, les arrache de leur automaticité banale quotidienne et marque un bouleversement d'envergure sociétale et politique. La femme qui a reçu un procès verbal pour circulation dans des conditions non aisées, je cite, elle conteste donc l'amende de 22 euros avec l'objectif de savoir, je cite, peut-on conduire avec un niqab en France? D'une légitimité provocatrice, la question fit écho comme un cri parmi les bruissements du débat parlementaire déjà en cours depuis 4 mois et portant donc sur la pertinence de légiférer sur les ports du voile intégral. C'est ainsi qu'il s'est fait divers Nantais, appelé niqab au volant, s'ouvrait dès sa naissance à une polémique nationale, baptisée donc l'affaire de la burqa. Du fait divers local à caractère a priori policier, il portait néanmoins tous les ingrédients nécessaires à sa mise en intrigue politique et médiatique. L'islam, la femme, signes religieux, visibilité, liens publics et laïcité. Donc on avait tout. Avec l'objectif d'analyser les stratégies de visibilité investissant ces faits divers, nous allons tout d'abord nous focaliser sur la construction narrative et visuelle de ces deux personnages, ces protagonistes. Donc, la femme burqa, Sandrine, et son mari, Lies. Puisque sans personnage, il n'y a pas de récit, il est important de retenir dans ces cas que les personnages de Sandrine, qui est à l'origine du fait divers, elle ne garde pas une place des protagonistes durant le déroulement de l'affaire nationale. Cette affaire va se structurer plutôt autour de son mari. Les déplacements de fonctions narratives de ces personnages est alors une donnée inscrite au cœur des stratégies de visibilité et qui nous intéresse ici d'analyser. Donc, verrons comme tous ces spectres du visible et invisible ont été construits. Sandrine figure dans ces récits de la presse régionale comme un personnage central, en acte, mais construit plutôt en tant que victime et soumis à l'intrigue. Sandrine s'est affirmée comme l'icône du fait divers nantais, mais elle est reléguée au second plan dans la mise en intrigue de l'affaire nationale. À l'opposé, Lies, son mari, s'est constitué au long du récit comme l'icône de l'affaire nationale, personnage cible de ces rebondissements politiques et judiciaires. Construit sous une étiquette plutôt complète, des personnages complexes et faisant preuve d'attributs contradictoires, Lies devient le véritable personnage médiatique de l'affaire, servant de ciment narratif entre les épisodes et opérant ainsi les passages du fait divers à l'affaire. À travers notre corpus, nous constatons que Lies se laisse capter par les projecteurs politiques médiatiques, tandis que Sandrine reste, elle, voilée derrière son niqab. Donc Sandrine déploie une stratégie d'invisibilité que nous considérons centrale à la problématisation de l'affaire et qui nous intéresse ici d'analyser. Donc comme vous pouvez voir à travers ces bricolages de unes et des titres, nous constatons que Sandrine, elle est dans toute la couverture de l'affaire et du fait divers. Sandrine, elle est ciblée par l'œil de l'appareil photographique des médias 15 fois, alors qu'Elias en est 20 fois. Sandrine n'est le sujet principal des 10 articles, tandis que son mari est le sujet principal des 23, dont 22 portent son nom en titraille. Donc, en comprenant, d'après la sociologue Nathalie Heinisch, les capitales des visibilités comme un capital symbolique, mesurable, cumulable, transmissible, convertible, nous pouvons souligner, en fonction de cette mesure de surface d'apparition, qu'Elias est dotée d'un capital de visibilité beaucoup plus important que Sandrine. Et c'est là, notamment, en raison des stéréotypes liés à l'islam qu'il est censé cumuler. Publié quotidiennement par les journaux étudiés, les photos de Sandrine et Liès ont constitué respectivement les identités visuelles du fait du vernicab au volant, participant donc à son individuation et sa reconnaissance dans l'espace public. Comprises comme des produits sémiotiques d'un processus de signification ancré dans son contexte de circulation et réception, ces deux portraits fonctionnent à la fois comme des icônes et des symboles. Ils sont des icônes dans la manière où ils se prêtent à une représentation métonymique de l'affaire de la burqa. Et ils sont également des symboles parce qu'ils portent des enjeux sociopolitiques nationaux découlant de la publicisation des signes religieux dans l'espace public. Cette visibilité médiatique, qui est devenue un problème public avant déjà avec l'affaire du foulard et la loi de 2004, comme nous pouvons voir ici, cette visibilité médiatique, elle est certes un produit social et politique, mais également, elle est un produit d'une construction médiatique. Ici, l'icône Liès devient un symbole quand il incarne à travers des topics tels que la polygamie, la fraude aux allocations sociales, la nationalité acquise pour mariage et l'extrémisme religieux. Donc l'icône Liès incarne une menace sociopolitique aux valeurs et aux lois de la République française. L'icône Sandrine devient un symbole d'un basculement social qui touche aux mœurs et aux croyances. Ici, son voile intégral incarne l'effet religieux au sein de l'espace public laïque français. Nous pouvons voir que dans les deux cas, l'apparence de ces personnages est transformée en matière symbolique, se constituant comme des visibilités qui personnifient tout un discours. La conversion de ces personnages en icônes et symboles, condensant des problématiques nationales, traduit alors les passages d'une visibilité sociale à une visibilité médiatique. Alors que dans la visibilité sociale, elle est tributaire d'une pratique, d'une logique d'action, parce qu'elle s'engage dans les cours de l'action et instauration des coprésences, à l'opposé, la visibilité médiatique, elle renvoie à des interactions médiées, des supports symboliques et techniques, à une multiplicité d'acteurs qui fabriquent ces visibles pour un public potentiellement ouvert et absent. Pour la traduction. Nous avons les passages d'une visibilité sociale à une visibilité médiatique. Bien sûr que ces deux visibilités, elles s'imbriquent dans l'expérience quotidienne. C'est-à-dire, nous avons tout d'abord une visibilité sociale qui se met en scène avec les foulards dans la rue, dans les écoles, etc. Puis cette visibilité, elle va être mise en scène dans l'espace médiatique. Et là, sa réception, différée, va ensuite influencer, va construire des représentations tout en imaginaire qui va ensuite influencer la manière dont la visibilité sociale s'est construite dans la pratique. Ces deux visibilités, elles s'imbriquent sur des allers-retours incessants et une nourrit l'autre sans cesse. Dans les cas de la visibilité médiatique, nous pouvons parler d'une transformation de la visibilité dans ces passages à la visibilité médiatique. Et cette visibilité médiatique-là, elle, suivant toujours Nathalie Hainich, elle est une visibilité... je me suis un peu perdue. Je suis désolée, non, donc je reviens. Dans cette visibilité médiatique, en quoi consiste cette visibilité-là? Selon le sociologue John Thompson, il s'agit alors d'une visibilité qui doit être comprise au sens étroit de la vision. Warhol, Olivier Warhol, un autre sociologue qui a travaillé un peu sur les médias, il nous parle en termes d'une production qui fait des médias une espèce de forme moderne des polices. La police grecque. Donc, dans cette arène publique, les médias sont les relais de l'apparence publique, des actions et des paroles, et deviennent ainsi les socles d'une collectivité sociopolitique. Les socles d'un voir ensemble qui participe à l'écriture collective d'une mémoire partagée et donc, dans certains sens, des réalités, dans certains vivre ensemble. Ainsi, dans les passages du fait divers à l'affaire, nous devons signaler que tout en conférant une dimension publique, nationale, à des occurrences locales, à des personnages anonymes, ces journaux régionaux, ils ont fini par réaliser tout un travail normatif consistant à définir une hiérarchie du voir, c'est-à-dire un ordre du visible, de l'invisible, un régime ou alors un régime de visibilité définissant ce qui vaut d'être vu, ce qui va être moins vu, plus vu, ce qui va passer inaperçu, ce qui va être condamné au silence et à l'insignifiance. Dans cette construction de l'affaire médiatique, nous avons affaire à des tris, des classifications, des identifications, des formatages qui instruisent des manières de voir. Ainsi, si les deux journaux étudiés, ils ont conféré une visibilité plus grande à l'IS dans la couverture de cette affaire, c'est justement pour ces deux raisons. D'abord, parce que son passé jugé polémique fait écho aux questions soulevées dans les débats parlementaires autour de la loi sur les niqabs. Et ensuite, parce que Sandrine, elle, résiste à l'injonction à la visibilité médiatique. Son regard s'esquivant du regard public. Donc, à partir de toutes ces analyses, nous pouvons donc avancer l'idée qu'être visible en régime médiatique signifie être inséré dans un tissu de gestes expressifs viabilisant des rapports de connaissances, des reconnaissances, des projections d'identification, comme c'est ici le cas de l'IS. À l'inverse, être invisible comme Sandrine signifie être privé de ses gestes, viabilisant la lecture et des traductions instantanées. Néanmoins, comme toute construction, la visibilité médiatique est traversée par des disputes symboliques, normatives et par des rapports de force. En ce sens, il faut souligner que Sandrine et Liès s'inscrivent différemment dans l'arène médiatique, mobilisant des stratégies de visibilité singulières. Et ici, maintenant, nous nous concentrerons uniquement sur les stratégies d'invisibilité du personnage de Sandrine. Donc, dans cette couverture, les désignateurs utilisés par les journaux étudiés pour renvoyer à Sandrine, donc tels que la compagnie d'Eliès, famille discrète, posée, mère des familles, tous ces désignateurs-là, ils permettent de comprendre la construction narrative d'un personnage, des caractères plats, familiers, mais dont l'intimité et les traits psychologiques restent toujours préservés. Voilà. Donc, à travers notre corpus, nous notons que Sandrine ne figure jamais seule sur aucune photo. Elle est toujours accompagnée de son mari ou de son avocat. C'est ce qui explique la reprise systématique de photos d'archives performant un rapport anachronique face au texte et péritexte des reportages. Donc ici, nous les voyons toujours en compagnie du mari et de l'avocat. Il y a la dernière image, la cinquième image ici. Nous voyons les derniers jugements renvoyés à son procès verbal. Et à cette occasion, Sandrine, elle n'est pas présente au tribunal. C'est son avocat qui la remplace. Et donc, nous voyons ici la manière dont les journaux ont dû bricoler pour mettre les deux photos ensemble, dire voilà, ces procès concernent le jugement de Sandrine, même si elle n'est pas là. Et elle parle à travers la voix de son avocat, qui est ici soulignée, mais ça reste trop petit. Donc, l'anonyme qui a déclenché les faits divers nantais est entièrement absente des discours politiques rebondissant sur l'affaire. Et elle ne s'exprime officiellement qu'à travers son avocat. Nous constatons ainsi que les gestes iconoclastes islamiques incarnés par les niqabs trouvent ici, chez Sandrine, un corollaire discursif, le laconisme. Donc ces deux, les gestes iconoclastes et les laconismes, participent ensemble de l'invisibilité volontaire du personnage Sandrine. Réservée et hors les projecteurs, Sandrine défie son appréhension médiatique et c'est justement cette stratégie qui est ici encore une fois appréhendable. Donc dans ce travail des mises en page, nous voyons une opposition qui a été créée par l'encadrement de photos et l'opposition de deux et la mise en page. Donc d'un côté l'IS par le microphone, de l'autre Sandrine n'offre que son dos aux caméras. L'inclusion de l'appareillage médiatique dans le cadre de ces photos atteste d'une intentionnalité signifiante. Il est question d'illustrer la médiatisation de ce personnage tout en témoignant des différents rapports que chacun d'eux entretient avec la publicisation de leurs images, de leurs gestes, de leurs paroles. Les dialogues établis entre ces photos jouent alors sur la signification globale du message, c'est-à-dire Sandrine ne se prête pas au jeu médiatique, à l'inverse, Lies, oui. Donc, dans la photo à droite, la prise de vue en plongée met les téléspectateurs au-dessus de la scène, créant une certaine impression d'harcèlement médiatique de ces personnages-là. Tandis qu'à gauche, la prise de vue en plongée fait que nous incarnons un œil photographique, journalistique, aussi à la quête de Sandrine. Mais les niqabs noirs mais Sandrine ne se laisse pas voir ni entendre. Les niqabs noirs déviant son image, la seule possible. Donc, cette mise en page et tous ces éléments que j'ai brièvement soulevés nous permettent de comprendre l'invisibilité de Sandrine comme volontaire et stratégique. Suivant Nathalie Hennisch et toute la typologie qu'elle a fait par rapport aux divers types de visibilité dans une perspective historique, nous pouvons dire que la visibilité médiatique de ces deux personnages-là est une visibilité du type endogène ou auto-engendrée, parce qu'elle est matérialisée par les dispositifs de communication qui entretiennent les capitales de visibilité de ce personnage en fonction uniquement d'une singularité éphémère, c'est-à-dire la personnification du fait religieux islamique qu'ils incarnent dans ces débats. Donc plutôt en fonction d'une singularité que d'une excellence calquée sur une certaine biographie ou sur une certaine histoire. Donc c'est dans ce sens qu'on peut appréhender cette visibilité médiatique comme endogène et auto-engendrée. Si dans les cas des faits divers, cette visibilité médiatique, elle apparaît souvent comme étant d'une grandeur injustifiée, parce qu'elle serait non méritée et presque accidentelle, nous pouvons par contre avancer une signification possible à l'invisibilité volontaire de Sandrine. Il pourrait s'agir du rejet d'une mise en scène médiatique qui veut ordonner l'essence de la réalité, à partir de la promotion de la valeur ontologique de la visibilité. Donc, c'est-à-dire une visibilité qui est à l'origine du sentiment de l'existence et de la reconnaissance sociale. Comme conséquence de ces refus, dans cette stratégie d'invisibilité de Sandrine, c'est donc notamment une visibilité médiatique étant comprise comme une anti-valeur, comme une valeur dénigrée, qui ressort donc de cette affaire. Les stratégies d'invisibilité de Sandrine nous permet alors de révéler une certaine visibilité médiatique qui est refusée, dénigrée, refusée. Donc cette visibilité-là, le problème posé par cette visibilité médiatique, elle serait moins posée par la visibilité elle-même qui est par les instruments, les outils techniques et symboliques de communication qui ont fait de cette visibilité, qui ont permis d'amplifier cette visibilité-là qui était éphémère, singulière, temporaire, voire imméritée. Sur donc la question de la crise iconique, qui est le deuxième conseil qui m'intéresse d'analyser ici. Dans cette dernière image, je vous allez pas pouvoir voir, mais je vous résume brièvement. Donc, il s'agit du dernier jugement concernant les procès verbaux de Sandrine. Elle n'est pas présente au tribunal, comme je vous ai dit. Et donc, les journalistes, ils décrivent la scène dans laquelle elle demande à la juge de faire une démonstration. Et donc, elle dit... voilà, j'ai conduit comme ça, comme cela depuis 10 ans. J'étais contrôlée avec mon iCab, etc., etc. Je suis une maman. J'emmène mes enfants à l'école et son sport. Bon, donc voilà. À la juge, elle demande poliment si elle peut faire une démonstration. Accordée. Elle tourne la tête pour prouver que son iCab ne l'empêche pas d'avoir une bonne visibilité. Les policiers ont noté que les vêtements étaient non solidaires de son visage, etc., etc. Donc, à travers la description que le journaliste a fait de la scène de laquelle on n'a pas les photos, nous permet de comprendre cette scène, en fait, ces moments où Sandrine elle demande de faire une démonstration pour prouver qu'elle est capable de voir avec son iCab. Constitue ici la scène climax du récit de ces faits divers. Donc c'est le seul moment où Sandrine se dévoile. Dans ce sens, il n'est pas anodin de noter que les titres du reportage « Voilée, elle persiste ici » insistent sur son voilement, tout en démontrant que l'invisibilité du personnage est signifiée par l'opacité identitaire de son iCab. En effet, tout en cachant les visages, les niqabs suspend la signification des gestes et de la parole de Sandrine en empêchant sa subjectivation, sa signification selon les règles occidentaux d'identification et de reconnaissance. Donc, à travers cet acte de dévoilement, Sandrine met en évidence la dimension conflictuelle de la visibilité médiatique et joue également sur la transformation du spectre des visibilités et la redéfinition des hiérarchies symboliques privilégiant les visages. Donc, elle soulève énormément de questions par rapport au régime des visibilités français, donc la visibilité et le poids de l'image, du visage. Et avec cette démonstration de tête, Sandrine, elle matérialise donc la question... de la visibilité qui traverse tous ces faits divers. Donc, au début, la réduction de la visibilité imposée par les niqabs justifie l'amende du policier. Ensuite, l'impossibilité d'identifier Sandrine dans les tribunaux l'oblige à l'enlever. Et tout cela démontre la manière dont l'affaire de la burqa met en question les régimes des visibilités et des publicités républicains qui imposent la transparence d'agir, la disparition des zones d'ombre, au nom de l'ordre public, de la sécurité. Tout cela nous permet de signifier, de comprendre les voilements intégrales de Sandrine, non pas comme un geste iconoclaste de destruction des images, mais plutôt comme un geste d'iconocrise, d'iconoclash, qui prend forme face à une certaine hypertrophie du visible en régime médiatique. Tout en instaurant une crise au cœur de visibilité, les niqabs mêlent la pensée même en crise. Ils deviennent ainsi le vecteur d'une élaboration critique concernant la place de l'invisible en régime médiatique. Donc ces signes religieux, ils portent une rhétorique de l'invisible qui s'impose à l'injonction à la visibilité de notre modernité médiatique. Il est ainsi signifié en tant qu'image des révoltes, des refus. Image des crises, il est à la fois destructif et constructif, donc il pose une iconocrise plutôt qu'un geste uniquement destructeur qui serait iconoclaste. Il s'agit de comprendre comment cette presse régionale elle a reconfiguré les récits de l'affaire de la burqa en les ramenant, en l'articulant aux faits divers nantais. Et donc aussi également dans un deuxième niveau, tout en analysant les faits divers nantais à partir du débat sur la loi. Donc tous ces rapprochements du fait divers de l'affaire, du fait divers au débat de la loi, a permis à cette presse régionale de soutenir un discours d'humour et dénonciateur. Donc, nous pouvons voir ici à travers les titres que cette presse, elle a employé tout un lexique théâtral. Donc, nous avons ici des termes tels que pièce de théâtre, docu-fiction, feuilleton, scénariste, acteur, victime, acteur, grand public. Tous ces lexiques qui est mis dans les titres, dans les sous-titres, il est vraiment mis en lumière dans cette couverture. Tous ces lexiques-là, il fait partie d'un registre d'humour qui a marqué l'énonciation de cette couverture des presses et qui a permis de présenter l'affaire de la burqa comme une écriture narrative à mi-chemin entre l'information et la fiction, ou alors comme un genre entretenant un rapport primordial mais ambigu avec l'actualité. Donc, de la compilation de tous les reportages marqués par ces discours d'humour, se dégage alors un agencement temporel de l'affaire de la burqa en trois temps. Cet agencement, donc, est illustré par les titres que j'ai mis ici. Donc, dans un premier temps, nous avons premier acte au coup de théâtre. Dans un deuxième temps, nous avons docu-fiction ou la continuation du feuilleton. Et dans un troisième temps, la fin du premier acte, l'épilogue. Donc, on a vraiment, à travers, on a un agencement temporal qui s'est fait voir aussi à travers ces termes. Donc, bien sûr, l'essence connotée de ces expressions, elle va dépendre d'un certain compromis de lecture établi avec les lecteurs. Et ici, l'idée d'une perspective d'analyse sémiotique, c'est de comprendre ces registres d'humour comme un appareil stratégique faisant partie d'un contrat de communication établi avec les lecteurs, qui établit un rapport de connivence, de complicité avec ces lecteurs-là, visant donc à les faire adhérer à la thèse, à la critique, à la dénonciation politique que cette presse régionale-là veut soutenir. Donc nous voyons aussi, c'est la dernière image, nous voyons aussi que tous ces discours d'humour a permis à la presse de délégitimer la manière dont l'affaire de la burqa a été conduite et dont les faits divers s'est articulé à l'affaire pour légitimer l'un l'autre. Et donc, ils parlent en termes d'instrumentalisation. Ils disent, voilà, les faits divers nantais a été instrumentalisé dans les cadres du débat national. Il a été approprié par les politiques en vue de la légitimation et pour approuver la loi qui était déjà en débat au Parlement. Voilà, dernière remarque donc sur cette thèse de l'instrumentalisation. Donc il est curieux de voir que cette thèse, cette idée, elle est, tout en étant soutenue par les discours d'humour, elle est quand même mise en lumière dans les titres, les sous-titres, les entretitres des reportages, qui pourtant renvoie aux déclarations des acteurs participant à ces affaires. C'est-à-dire que dans aucun moment, cette presse-là, elle s'est responsabilisée pour cette dénonciation. Elle ne dit pas « c'est de l'instrumentalisation », non, elle reprend les stations des acteurs, surtout les anonymes de la région, les voisins, des personnages, etc., qui parlent dans ces termes, et elle les met en lumière et suggère l'instrumentalisation de l'affaire, tout en se déresponsabilisant de cette prise en scène énonciative. Donc elle joue sur cette stratégie, mais en tant que lecteur, l'impression qu'on a à travers la répétition du terme instrumentalisation au fil des jours, c'est d'une critique et d'une dénonciation politique de la part de cette presse régionale. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Camila Areas, pour cette présentation au plus près des acteurs qui amène à créer une distance, une relativisation par rapport à la nature et au contenu du débat tel qu'il s'est déroulé ensuite au niveau national. Et c'est évidemment une approche très précieuse. Pardon
de la cuistrerie et d'un autre retour à l'histoire, mais votre deuxième partie sur l'utilisation de l'ironie par rapport à certaines manifestations de la foi religieuse, ça me rappelle ce conseil qui avait été demandé par le roi d'Angleterre au début du XVIIIe siècle à Shaftesbury, l'auteur de la lettre sur l'enthousiasme, parce que les calvinistes français qui fuyaient les dragonnades s'étaient réfugiés à Londres. Ils n'avaient pas trouvé dans l'église anglicane, à proprement parler, une église réformée de type calviniste, et alors ils mettaient la pagaille. Et donc le roi avait demandé à Shaftesbury, qu'est-ce que je fais ? On les met en prison, enfin ce ne serait pas très sympathique vu qu'ils ont fui la persécution dans leur propre pays. Ou que faire d'autre ? Alors Shaftesbury a réfléchi, est allé voir, et puis a dit ce qu'il faut, c'est convoquer des comédiens qui les caricaturent de l'autre côté de la rue où ils font eux-mêmes leur propre prêche. Et au bout de quelques semaines, les calvinistes français avaient disparu du paysage londonien. Voilà. Alors est-ce que l'ironie peut encore servir dans le débat sur le religieux, je crains que malheureusement nous soyons passés à d'autres mœurs, mais c'est une façon de traiter le sujet qui est assez ancienne en réalité.
Voilà, il faut dire que cette ironie-là date de 2009-2010, donc c'est avant tous les événements.
Voilà.
Et la bibliographie sur l'ironie en régime médiatique était vraiment rare. À cette époque, j'en ai eu un vrai problème au niveau théorique bibliographique et maintenant tout a changé.
Alors, nous n'avons pas trop de retard. Je crois qu'on peut prendre 5 bonnes minutes pour des questions quand même. Oui.
Alors, merci beaucoup pour ta présentation et merci aussi pour l'interdisciplinarité du colloque parce qu'on voit que sur une même problématique, on peut avoir vraiment deux approches sur des matières différentes et qui se complètent. Alors j'ai une remarque, j'ai trouvé très intéressant que tu dises que finalement tout ça, ça a contribué à une vision du vivre ensemble finalement entre guillemets imposée par les médias et je me réfère ici à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est basée sur cet argument du vivre ensemble pour dire que la loi française est en conformité avec le texte de la Convention. Et c'est vraiment très très intéressant de mettre ces deux informations en lien. Une autre remarque, tu as parlé d'espace laïque français. Alors, je ne sais pas si tu as repris ce que disaient les médias, mais il faut quand même préciser que le principe de laïcité n'a rien à voir, du coup, avec l'affaire du voile intégral, puisque c'est dans la rue. Et enfin, j'ai une question. Tu n'as pas beaucoup parlé de la loi de 2004. Je voulais juste savoir le lien que tu avais fait entre les deux, si c'était du côté des médias ou si c'était un autre lien. Voilà. Encore merci.
Merci. En effet, je vais rajouter la question du vivre ensemble, ça m'est précieuse, merci. alors, les deux dernières questions, elles se rejoignent. Donc, c'est-à-dire, vous avez raison de préciser que l'espace public, la laïcité, elle définit pas l'espace public français. Par contre, c'est justement ces rapprochements que j'essaye de faire dans ma thèse. En articulant l'affaire du foulard à l'affaire de la burqa. Donc la question qui traverse toute ma thèse, qui me permet d'articuler ces deux affaires, c'est justement comment on est en train de définir l'espace public par rapport à la visibilité religieuse, ici islamique. Donc c'est justement la question clé qui me permet de dire, voilà, comment on part de 2004 dans un débat qui concerne l'encadre institutionnel, l'école, à 6 ans après une loi qui concerne l'espace public comprenant la rue, la voie publique. Si en effet l'espace public français n'est pas défini par la question de la laïcité, l'effet est que depuis ces événements, on a rapproché les idées et si on dit, si avec la loi de 2010, on définit, on redéfinit, on ressignifie l'espace public au nom de l'ordre, nous savons que l'argument de l'ordre a été une stratégie politique et que cette loi concerne la burqa. Donc, nous pouvons parler d'une certaine définition des espaces publics par rapport à une visibilité religieuse qui, encore une fois, est d'abord sociale, puis médiatique, et puis se nourrissant ensemble. Donc, et mon corpus aussi, il change en fait. L'affaire du foulard, c'est la presse. Et l'affaire du foulard, je prends un corpus scientifique, pas médiatique, et la burqa médiatique. Donc ça change aussi. Oui.
Oui, il y a une phrase qui me gêne dans vos propos. Vous parlez d'invisibilité volontaire. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé interroger les voisins, la famille, le maire, la femme, parce que ça peut tout à fait être imposé et imposé de façon forcée et conditionnée. Et je ne vois pas comment vous pouvez affirmer ça, qu'elle n'est pas sous emprise de quelque type qu'elle soit. Donc, ça me gêne beaucoup que vous parliez de volontaire.
Oui, je comprends.
C'est peut-être la volonté de son mari ou de je ne sais pas qui, mais comment vous pouvez oser écrire ça noir sur blanc? Sinon, l'autre chose, j'ai su pour votre thèse, est-ce que vous pourriez faire des proportions d'articles écrits par des femmes et des hommes dans la presse, s'il vous plaît? Je ne sais pas si à Presse Océan, il y a beaucoup de femmes journalistes.
Alors, c'est une question. Bon, on commence par la deuxième. Je me suis jamais. Je vais faire ce recensement. Je l'ai pas fait. Ce sont surtout les mêmes journalistes qui font cette couverture dans la presse régionale. Ils sont deux ou trois. Alors, il y a une femme et deux hommes. Voilà. À part les principaux, à part les autres qui tournent un peu autour. Mais en gros, ils sont trois. Ils sont deux hommes et une femme. Il faudrait faire les recensements pour les autres. Mais sinon. Pour la question de l'invisibilité, en effet, cette question, elle m'a suivie pendant longtemps. Et donc, je suis allée aux journaux Presse Océan et OS France. J'ai fait des entretiens avec les journalistes, notamment ces trois. Et eux, ils m'ont donné quelques portes d'accès à de ces voisinages-là. J'en ai parcouru, j'en ai parlé avec des gens, pas avec les protagonistes, impossible. Mais j'ai eu des éléments d'analyse, surtout de la part des journalistes, pour comprendre qu'ils ont vraiment joué deux stratégies différentes. Et que Sandrine, dès le départ, elle ne voulait pas se mettre en scène. Et dès le départ, elle a un peu refusé le contact médiatique, etc. Alors que Lies, lui, avait un projet, les projets de construction d'une mosquée à Nantes. Et donc, la visibilité de l'affaire, en quelque sorte, l'était profitable. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Mais du coup, il s'est valu de cette mise en visibilité médiatique au tout début de l'affaire, en se disant, voilà, je peux avoir plus d'adeptes, je peux être plus connu, avoir plus de reconnaissance. Il était déjà un personnage très polémique dans la région à part des événements passés. Mais l'effet est que la prise du fait divers au sein de l'affaire de la burqa a un peu changé les choses. Il a compris que cette mise en scène allait être négative et il s'est retiré dans un deuxième moment. Et encore, et donc un troisième moment, c'est quand le procès verbal finit, Sandrine est jugée non coupable. Et là, pour la première fois, elle sort de l'invisibilité, elle donne des entretiens et elle publie un livre dans lequel elle dit, elle parle de sa conversion, elle explique les motifs et elle dit, elle justifie en se disant, j'ai choisi d'être une femme parmi d'autres de l'IS, j'ai choisi la conversion, j'ai choisi ma foi et j'ai choisi de... c'est là, en tant que Française, citoyenne française, convertie, etc. Donc c'est le seul moment, c'est à la fin du récit, au moment où elle est jugée non coupable, là elle sort de l'invisibilité, et fait. Donc tout cela me donne des indices pour quand même comprendre une certaine action stratégique de la part de ces personnages.
Une dernière question, Philippe Portier. Oui,
juste une question de compréhension à propos de la deuxième partie de votre exposé.
Oui.
Comment vous expliquez cette prise de distance par rapport au débat national et par rapport même à ce que disaient les journaux nationaux à l'époque? Pourquoi y a-t-il une sorte d'autonomisation de la presse régionale qui ose utiliser le registre de l'humour dans un moment où, au plan national, on ne l'utilise pas? Comment vous articulez cela? Parce que c'est utile, si vous voulez, pour comprendre le traitement du fait religieux par le champ médiatique, qui est probablement plus différencié qu'on ne le dit. Donc voilà la question que je voulais vous poser.
Alors, le registre de l'humour, peut-être j'ai passé trop vite cette partie, mais le registre de l'humour, il est plutôt valable pour décrédibiliser l'action menée par le politicien. Donc c'est la stratégie politicienne d'accaparement du fait divers dans les cadres de l'affaire qui a été la cible de ces discours d'humour. Donc ils disent, voilà, les scénaristes de la place Beauvais, Hortefeux devient les méchants, l'IS la victime, etc., etc. Donc finalement, c'est un discours humoristique qui se rapproche davantage des personnages locaux, qui se rapproche davantage du fait divers, qui s'éloigne et qui sert à critiquer la politique nationale et la stratégie politicienne. Donc, en effet, dans toute la couverture de l'affaire, ils ont donné beaucoup plus d'importance au fait divers qu'à l'affaire nationale. Et en mettant l'accent sur cette critique humoristique, ces journaux-là, ils arrivent à être plus fidèles, plus proches de leurs lecteurs. Donc, ils rattachent le débat sur des personnages et même des politiciens locaux, comme Jean-Marc Ayrault à l'époque, qui était le maire de Nantes et qui était aussi un des protagonistes. Donc, ils rattachent toujours à des figures nationaux, que ce soit anonymes ou des personnages politiques, en disant voilà comment on peut lire l'affaire de la burqa autrement dans ces entrelignes. Et finalement, ce qui en ressort, c'est une couverture très critique à l'égard des paris et plutôt solidaire à l'égard du couple, de ses voisinages et de tout ce qui a fait, qui a fait émerger les faits divers. Et c'est là, encore une fois, je pense que ça s'inscrit dans une stratégie de communication éditoriale visant à fidéliser ses lecteurs, créer avec lui un rapport de connivence, de complicité et se démarquer d'une couverture nationale qu'il rapproche plutôt du processus de politisation de la question du voile. Donc de cette manière aussi, ils construisent une certaine image d'eux-mêmes, image de journaux critiques, dénonciateurs et d'un vrai travail d'enquête. Ils se montrent un peu comme des journaux enquêteurs.